Lundi
14 juillet.
Je vais vous lire un petit texte. Donc ce 14 juillet, cette version 2008 du 14 juillet d'Attaque et des Suds, donc qu'on souhaite chaque année dans une tradition internationaliste. Donc cette année, on a placé ce 14 juillet 2008 donc sous le signe de l'identité et des identités également. Donc au moment où nos armées françaises défilent jusque dans les rues d'Arles, devant les chefs d'État de nos anciennes colonies notamment, après le sommet de l'Union pour la Méditerranée, on a préféré faire rimer cette fête nationale du 14 juillet en la déclinant en trois moments. Donc un premier moment de réflexion avec Gérard Noiriel. Alors j'ai fait résumer, hein, historien, auteur de nombreux ouvrages, président du comité de vigilance sur les usages de l'histoire, et qui étudie depuis plus de 20 ans l'histoire de l'immigration et son traitement politique en France. Donc l'identité nationale, c'est de quelle couleur ? Quelques rappels, ça a été pas très loin de chez nous, enfin l'identité nationale non, mais quelques faits, chasse à l'italien, un jour de 1893 à Aigues-Mortes, avec 50 morts, des émeutes racistes au Salin-Giraud, l'édification du camp de Salier, réservé aux Roms, en 1942, l'élection de la première municipalité du Front National, à Saint-Gilles-du-Gard, juste à côté de chez nous. À chaque fois, c'est toujours l'identité nationale qui est mise en avant, avec aujourd'hui, toujours en son nom, et en tout cas en utilisant ces mots, un arsenal juridique sans précédent, fichier d'étrangers, rafle, délation, centre de rétention, test génétique. Les mots sont maintenant dépassés par la politique active de l'administration. Après avoir libéré la circulation des mots, on a libéré l'action répressive au service d'une xénophobie d'État. Donc, à Attaque, au retour idéologique de l'identité nationale en France, on préfère y opposer la richesse des identités sans frontières. Donc, je laisse la parole à Gérard Noiriel, et puis merci, donc, et bon 14 juillet.
Tout d'abord, merci de m'avoir invité à vos journées de réflexion. Moi, j'appartiens à une génération qui a beaucoup cru justement à la nécessité de la réflexion pour l'action et à ce qu'on appelait aussi, qu'on appelle encore, mais je dirais malheureusement beaucoup moins aujourd'hui, enfin, la nécessité d'un intellectuel collectif, hein, qui rassemble des chercheurs, des artistes, des militants pour agir, pour transformer la société, mais aussi pour penser. C'est-à-dire que je suis toujours resté convaincu que pour espérer changer la société, il faut déjà la comprendre et la connaître. Une autre chose que je veux dire avant de commencer, c'est aussi, j'ai toujours, mais là c'est presque plus par tempérament qu'autre chose, eu la conviction que fallait toujours aussi s'interroger sur soi-même, se remettre en question soi-même, c'était peut-être ça le plus difficile, pour espérer avoir un peu de lucidité. Et moi, depuis que je suis dans le circuit, si on peut dire, sur ces questions à la fois sur le plan militant, mais sur le plan de la réflexion concernant l'immigration, l'identité nationale, etc., je peux pas dire que les choses aient vraiment progressé, hein, puisque moi j'étais étudiant dans les années 70, à une époque où ces histoires d'identité nationale, etc., ça nous paraissait complètement dépassé. Hein. Et on a vu ressurgir ces questions-là. On les a vu ressurgir d'abord du côté de l'extrême droite avec le Front National dans les années 80, et aujourd'hui on a un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Vous savez peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles, avec mes collègues historiens, qui étions un peu à l'initiative de la mise en place de la cité d'histoire de l'immigration, nous avons démissionné pour protester contre ce ministère. Donc j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais donc je crois aussi que parfois il faut être capable, ce qui n'est pas forcément facile, mais de faire la part des choses, ou même de dialoguer de manière contradictoire ou conflictuelle entre deux parties de soi-même, la partie, je dirais, militante, engagée, et la partie réflexive. Et dans ce petit bouquin, j'ai donc essayé de mobiliser un certain nombre de travaux à la fois sociologiques et historiques sur ces questions d'identité nationale pour essayer d'éclairer la situation actuelle et aussi comprendre les rapports de force et les stratégies qui sont développées par les gens qui sont au pouvoir et peut-être d'essayer de mettre le doigt sur un certain nombre d'insuffisances dans nos... je dirais d'abord dans notre façon, je pense qu'il y a un déficit, hein, je dis franchement, donc c'est autocritique, hein, il y a un déficit de la réflexion aujourd'hui sur ce qui se passe, hein, sur la recomposition des relations de pouvoir. Et donc du coup, évidemment, au niveau même des formes d'action, il y a aussi un déficit, puisqu'on n'a pas une vision, une analyse lucide de ce qui se passe. Donc c'est un petit peu dans cette perspective que j'essaye de réfléchir actuellement, avec aussi une autre conviction, c'est que les relations de pouvoir, elles se recomposent constamment. Hein. C'est-à-dire que, si je prends la question du racisme et de la lutte contre le racisme, qui a été un des engagements essentiels, de ma vie depuis que je suis étudiant, c'est, si vous voulez, on voit très bien qu'un certain nombre de choses qui étaient des revendications, des choses pour lesquels on s'est battu, ont été intégrés aujourd'hui par le pouvoir. Je dirais un petit mot, si vous voulez, parce que j'ai analysé la campagne de Sarkozy, les discours de Nicolas Sarkozy, donc dans la présidentielle. Vous voyez très bien que lui-même se présente comme un métis, par exemple. Hein. Il revendique ses origines métissées, le sang mêlé. Bon, vous voyez, toute une série de choses qui, auparavant, évidemment, étaient vraiment clairement... du côté gauche, du côté critique, etc., qui aujourd'hui sont intégrés dans les discours du pouvoir. Donc c'est l'une des grandes difficultés. C'est pas nouveau, hein. Constamment, quand on fait de l'histoire, on se rend compte que constamment, à toutes les époques, vous avez une recomposition des relations de pouvoir et des choses qui étaient au départ extrêmement marginales, portées par des militants critiques, ont été intégrées, digérées, etc., etc. On sait très bien que le capitalisme, aujourd'hui en France, a intégré un très grand nombre de choses qui sont nées en mai 68. Hein, voilà, le problème pour nous, c'est justement d'être aussi suffisamment souple et ouvert pour comprendre ce qui se passe et donc réagir de façon aussi à être efficace, parce que c'est le but de la politique, c'est quand même d'être capable de produire des analyses et des modes d'action qui soient politiquement efficaces. Alors, je vais donc reprendre cette question de l'identité nationale en donnant une petite perspective historique, un peu un détour par l'histoire, qui me permettra ensuite d'éclairer peut-être le contexte actuel, parce que c'est fréquent aussi, hein, mais rien n'est jamais vraiment nouveau dans l'histoire. Les gens pensent que tout est toujours nouveau, comme la question de l'immigration, alors que Dieu sait s'il y a un pays qui a été fabriqué par l'immigration, c'est bien la France. Mais il y a une sorte d'amnésie. Et l'amnésie, ça fait partie des stratégies de pouvoir. Je veux dire, nous vivons dans l'actualité, nous avons le pouvoir dans les médias qui tentent constamment de nous faire croire que tout est nouveau, inédit, etc., etc. Donc il y a une sorte d'amnésie qui se construit et qui empêche aussi de capitaliser des expériences ou des réflexions antérieures autour de problèmes qui, au fond, étaient assez proches d'aujourd'hui, même s'ils étaient nommés ou élaborés autrement. Donc quand on a démissionné de la cité du Conseil scientifique de la Cité de l'immigration, beaucoup de gens, ça a eu un certain impact, disons, médiatique, et beaucoup de gens nous disaient, mais qu'est-ce que vous avez contre cette expression d'identité nationale? Et là aussi, c'était dans les discours de Sarkozy, il y avait l'idée, vous savez, le thème que avoir le courage d'eux, hein, c'est avoir le courage d'en parler. Lutter contre les tabous. Donc il y a une sorte de discrédit qui est porté sur nous en disant, eh bien, finalement, pourquoi le politiquement correct, pourquoi est-ce que ça nous empêcherait de parler d'identité nationale, etc. C'est pas un gros mot, etc. Bon. Donc je voudrais déjà un petit peu expliquer pourquoi, les enjeux qu'il y a derrière. D'abord, identité nationale, si vous voulez, c'est une expression qui associe deux mots, le mot identité et le mot national. Quand on regarde l'histoire du vocabulaire, du discours en France, on s'aperçoit que l'association de ces deux mots, en fait, c'est assez récent. Hein. Les premières formulations dans le champ politiques, elles apparaissent dans les années 70, donc en fait dans la mouvance de mai 68. Et les premiers à avoir utilisé cette expression, ce ne sont pas des gens de droite, ce sont des gens de gauche et même d'extrême gauche. L'identité nationale, elle est portée par les militants, par exemple régionalistes ou multiculturalistes, comme on dit, qui militent contre l'identité nationale dominante imposée par Paris, jacobine, etc., au bénéfice d'identités dominées, les Occitans, la Corse, etc., etc. Donc on a un vocabulaire militant porté au départ par les forces progressistes, donc dans ce contexte d'émergence des luttes pour les identités qui caractérisent la période de 68. Et ce qui s'est produit dans les années 80, c'est un retournement, c'est-à-dire donc cette thématique de l'identité nationale a été retournée pour être accaparée par d'abord l'extrême droite, puis aujourd'hui la droite, pour présenter donc l'identité française comme étant menacée. Et c'est ce discours qui s'est imposé avec évidemment une puissance très forte de tous les côtés, côté des médias, des politiques, etc., et qui, à mon avis, est un des éléments essentiels de, je reparlerai tout à l'heure, de la victoire électorale de Sarkozy, parce que c'est autour de cette thématique que les voix de l'extrême droite dont il avait besoin pour gagner l'élection se sont déplacées. Mais ce que je commence par là pour souligner un point qui est fascinant parce qu'on le retrouve constamment dans l'histoire. C'est-à-dire que la nation, le vocabulaire de la nation, au départ, il a été porté par la gauche. À l'époque, la gauche républicaine, hein, au moment de la Révolution française, dans les décennies qui ont suivi la Révolution française, ceux qui portent les valeurs nationales, ce sont des révolutionnaires. Hein, qui combattent les pouvoirs qui, à l'époque, étaient les monarchies, les rois, etc., etc. Donc, la thématique de la nation, elle est liée très fortement, au départ, à la notion de liberté. Hein, c'est la thématique des mouvements de libération nationale qui, d'ailleurs, vont ressurgir, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des luttes contre la colonisation. On a donc une sorte de répétition d'un schéma historique qu'on avait déjà vu au début du XIXe siècle avec, au départ, donc, un vocabulaire national qui porte des valeurs progressistes, démocratiques, autour de la notion de liberté. Et cette notion de liberté, elle est déclinée en dans deux directions qui, au départ, se conjuguent, c'est-à-dire liberté des peuples, donc c'est la définition qu'on appelle souvent française de la nation, c'est-à-dire la nation veut dire peuple, ça veut dire tiers état, ça veut dire le peuple contre l'aristocratie, etc. Ça, c'est le sens social du mot nation. Et puis, vous avez un autre sens qui est la lutte des nations pour la liberté contre les impérialismes. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle parfois la définition allemande de la nation. C'est-à-dire que le vocabulaire de la nation a été développé en Allemagne contre l'impérialisme français, au moment de l'occupation d'une partie de l'Allemagne par les troupes napoléoniennes. Hein. Donc là, c'est un sens, on dit parfois, culturel de la nation, qui vise à défendre une langue, des traditions, une culture, etc., etc. Donc on a ces deux notions de la nation qui sont portées au départ et qui vont aboutir à ce qu'on a appelé le principe des nationalités, qui débouche sur la révolution de 1848, qui elle-même se termine par l'échec des mouvements révolutionnaires et le retour donc des forces conservatrices. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, on pourra y revenir le cas échéant, mais un point quand même sur lequel je voudrais insister, c'est que dès cette époque, c'est-à-dire dans la façon dont les forces révolutionnaires, on peut dire, ont thématisé la nation, vous avez un problème qui est posé, et qui rejoint évidemment la thématique de l'identité, c'est que la nation est vue comme une personne. Hein. C'est l'historien français Jules Michelet qui a fixé cette formule en disant « la France est une personne ». Donc, dans la réflexion politique sur la nation, on retrouve toujours ce problème. C'est-à-dire que la diversité, l'infinie diversité des individus est quelque part occultée au profit, donc, d'une vision qu'on appelle dans notre jargon réifiée, hein, où la nation est présentée comme une personne, c'est-à-dire on raisonne sur la nation comme si c'était comme on raisonne sur un individu. Donc vous avez tout ce discours donc porté par les forces révolutionnaires au début qui consiste à dire l'éveil des nationalités. Hein. Alors, c'est, voyez, l'éveil. Il y aurait eu un jour des nationalités comme ça qui étaient endormies. Un jour, elles se sont éveillées. Et puis, on a eu des militants qui leur ont fait prendre conscience, hein, qu'elles étaient une nation. Et il y a des luttes, il y a une révolution. On prend le pouvoir d'État. Et puis après, la nation devient un État-nation. Voilà ce schéma qui, à mon avis, est quand même la source aussi de toute une série de problèmes qui se sont posés par la suite et qu'on appelle le nationalisme, évidemment. Donc, il y a là un nœud de problème, c'est-à-dire que la notion d'identité, on ne peut pas dire que ce soit une notion qui a été toujours portée par des forces réactionnaires. Hein. De même, en 68, après 68, vous avez, encore aujourd'hui d'ailleurs, vous avez des gens qui se battent pour la libération des identités. Donc il peut y avoir une politisation qui va dans différents sens. Ça, c'est un point. Mais en amont, il y a un problème fondamental qui est d'interroger cette notion qui vise à concevoir la nation, c'est-à-dire une entité collective, comme si c'était une personne. Hein. C'est, je dirais, sur le plan de mon travail de sociologue et d'historien, l'accent majeur que j'ai développé, c'est la mise en cause, la déconstruction, comme on dit, de cette entité collective. Mais ça va très loin, parce que ce sont des choses qu'on a tous intériorisées. On est presque obligé, quand on dit « la France dit que » ou « la France déclare que », on a tout un vocabulaire qui constamment, ou « la France souffre », ou etc. Vous avez tout un vocabulaire qui est complètement intégré, je crois que ça fait partie même de l'essence de la politique de raisonner comme ça, qui facilite après les entreprises de manipulation de la notion d'identité nationale. Donc ça, on le voit apparaître dès le début du XIXe siècle avec des individus, évidemment, qui se positionnent eux-mêmes comme étant les porte-parole. On a tout le problème du statut des intellectuels et de ceux qui vont parler au nom de la nation. C'est aussi le problème des militants qui vont parler au nom d'une cause. Et là aussi, on a une série de problèmes qu'il s'agit d'interroger. Mais je dirais, dans la première moitié du XIXe siècle, donc, c'est au service de causes progressistes et universelles, c'est-à-dire les gens qui se battent pour le principe des nationalités, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils n'opposent pas les nations les unes aux autres. Au contraire, c'est la grande fraternité, on a une sorte de continuation du principe des Lumières, où on voit des intellectuels allemands, je pense aux frères Grimm, par exemple, qui vont aider d'autres pays qui vont se solidariser avec, par exemple, les Grecs qui sont persécutés par l'Empire ottoman, etc., etc. On a donc une sorte de convergence des causes, des luttes, et tout ça va échouer, et on a un retournement qui se produit au début de la Troisième République, pour le cas de la France, c'est-à-dire en 1870. 1870, c'est une date extrêmement importante dans l'histoire contemporaine de la France, parce que c'est la défaite de la France face à la Prusse, donc l'écroulement de tout cet idéal des libérations nationales et le renversement de la thématique nationale dans un sens conservateur. Donc c'est un peu là-dessus que je voudrais insister, parce que je crois que tout le débat actuel, en fait, il vient de ce moment-là. Hein. Et j'ai comparé l'argumentation de Nicolas Sarkozy donc aux précédentes élections présidentielles avec ce que disait Maurice Barrès à la fin du XIXe siècle. En gros, c'est le même schéma. Hein. C'est ce que je voudrais montrer. C'est du nationalisme, hein, vraiment du nationalisme. Mais moi, j'essaie de, quand je fais des analyses comme ça, de ne pas donner une connotation négative ou positive. C'est le mot qui convient. Et d'ailleurs, le mot nationalisme aujourd'hui, même, vous savez, Le Pen dit qu'il n'est pas nationaliste, etc. C'est devenu une insulte. Mais à l'époque, non. Maurice Barrès se revendiquait comme nationaliste. Ces gens-là n'avaient pas honte de le dire. On a eu honte de le dire après la Deuxième Guerre mondiale, après les nazis, après Vichy, etc. Mais jusque dans les années 30, le terme nationalisme, il y avait des gens qui se revendiquaient. C'était opposé à socialisme. Vous avez deux courants on parlait tout à l'heure, qui s'opposaient. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont nationalistes, mais c'est un nationalisme honteux, qui ne s'affiche plus. J'allais dire, c'est quand même positif de voir qu'on en est arrivé là, mais enfin, il a fallu quand même deux guerres mondiales, et puis des persécutions coloniales, Vichy, etc., etc., pour en arriver là. Bon, mais enfin... ce terme de nationalisme, donc aujourd'hui, il n'est plus assumé comme tel, c'est déjà un point positif. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc sous la Troisième République? Eh bien évidemment, c'est la mise en place de la République, le triomphe, on pourrait dire, de la République, mais je dirais surtout, c'est le triomphe de l'État-nation. Alors là, il y a des querelles, enfin des divergences entre historiens, je ne veux pas entrer dans les détails, mais moi je pense que la société française est devenue nationale seulement, vraiment, seulement à partir de 1870, seulement à partir de la Troisième République. Avant la Troisième République, vous avez déjà une nation française, mais vous avez une séparation très grande entre les élites et les classes populaires. Les classes populaires ne sont pas vraiment intégrées dans le jeu de l'État-nation. Et ce que va apporter la Troisième République, c'est donc une intégration des classes populaires, c'est-à-dire des paysans et des ouvriers, dans la nation française. Et en même temps que vous avez cette intégration, qui est quelque chose évidemment d'éminemment positif du point de vue des valeurs démocratiques, puisque c'est la participation des paysans, des ouvriers à la vie politique, c'est la liberté de la presse, etc., etc., qui sont acquises à ce moment-là. Mais il y a toujours une contrepartie, c'est pour ça que... historien est toujours un peu désenchanteur, si vous voulez. C'est que vous avez une contrepartie qui... c'est-à-dire, quand vous avez une inclusion, vous avez une exclusion, quoi. Mais les mécanismes se développent toujours des deux côtés. Et c'est à ce moment-là, au moment même où donc l'État républicain intègre les classes populaires, que se mettent en place les modalités d'exclusion, que sont principalement l'exclusion des étrangers, donc la question de l'immigration, et puis aussi... le basculement de la République dans l'État, dans la colonisation, la construction de l'empire colonial. Donc vous avez un système politique qui se met en place avec donc des principes démocratiques d'intégration dans l'État des classes populaires, puis en même temps des formes d'exclusion qui vont viser donc les immigrés, les colonisés, puis aussi d'autres groupes marginalisés. J'entre pas dans les détails. Mais à partir de ce moment-là, la question de l'identité nationale. L'expression n'est pas utilisée, mais elle fonctionne déjà. À l'époque, on dit « caractère national » ou « âme nationale », etc. Eh bien, elle est totalement liée à ce processus d'intégration des classes populaires au sein de l'État. C'est-à-dire que désormais, vous avez un certain nombre d'éléments qui entrent dans la définition de l'identité de la nation. Et avant, ça existait déjà, si vous voulez, mais ça restait quelque chose confiné dans les élites. Ça ne touchait pas le peuple. Il y avait une telle, la société française était tellement hétérogène que vous aviez dans les tas de régions de France les paysans. Ça n'avait pas de sens de dire je suis français, pas français. Ça n'a pas d'importance. Ça n'avait pas de sens. Vous aviez jusqu'en 1970 plus de la moitié des Français ne parlent pas le français. Il faut bien voir ça. Donc, il n'y a pas de droit social. Donc, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de droit de la nationalité. Hein. Donc, on a vraiment changé d'époque à partir de la Troisième République. C'est d'ailleurs en 1889 seulement que vous aviez la première loi sur la nationalité française. Jusqu'en 1889, les juristes eux-mêmes ne pouvaient pas dire à coup sûr qui était français, qui ne l'était pas, notamment dans les classes populaires. Vous aviez la possibilité, jusqu'en 1889, quand vous étiez issu de l'immigration, comme on dit aujourd'hui, on ne disait pas comme ça à l'époque, de décliner la nationalité française, on disait la qualité de français à l'époque, à la majorité. Un enfant, quand il arrivait à l'âge adulte, il avait toujours le droit de dire « non, je ne veux pas être français ». Et ça se reproduisait de génération en génération. Et c'est d'ailleurs un des motifs du nationalisme, de la xénophobie qui apparaît à cette époque. Grâce à ce subterfuge, entre guillemets, les enfants issus donc de l'immigration, en fait, ils étaient surtout belges et italiens à l'époque, déclinaient la nationalité française. 90% d'entre eux, quand ils arrivaient à l'âge adulte, ils disaient « je ne suis pas français », comme ça leur évitait la grosse corvée qui était le service militaire. Je rappelle ça parce qu'on nous, on nous fait croire aujourd'hui que les nouvelles immigrations ne seraient plus patriotes, n'auraient plus la citoyenneté, le sens de la citoyenneté, alors que les anciennes auraient été faire la guerre comme ça, parce qu'ils adoraient la France et tout. En fait, la réalité historique prouve exactement le contraire. 90% des gens qui avaient le choix déclinaient systématiquement la qualité de français. Et c'est pour empêcher ça qu'on a changé le droit, qu'on a fait ce droit de la nationalité qu'on nous présente comme extraordinairement ouvert, etc., généreux et tout. En fait, c'est tout le contraire. Ça a été une entreprise d'annexion. On a annexé des populations qui, autrefois, avaient le droit de dire ben, « je ne suis pas français, je suis fidèle à mon ancienne patrie ». Et ça a été un motif, d'ailleurs, de litige, de conflit international. On nous présente toujours le droit allemand comme étant le pire des droits, enfin nazi, etc., etc., etc. Les Allemands ont changé leur droit en réaction au droit français. Parce que les Italiens aussi, d'ailleurs, les pays qui étaient des pays d'émigration, ils avaient donc certains de leurs ressortissants qui étaient dans d'autres pays. Et du coup, ils ont vu les pays d'immigration les annexer par le fait, en changeant le droit. Donc ils ont réagi en fabriquant un droit fondé sur ce qu'on appelle le droit du sang, c'est-à-dire la filiation, permettant à leurs ressortissants de garder leur nationalité en situation d'exil, vous voyez, ou d'émigration. Mais c'était une riposte, vous voyez, c'est dans un jeu nationaliste, d'affrontement des États, où la France n'est pas plus glorieuse que les autres. Chacun défend son intérêt national. Alors ça, vous voyez, là, il y a... quand moi, j'ai découvert ça avec un certain nombre de collègues et de mes étudiants. Et quand on a comparé à ce qu'on nous avait raconté, vous voyez, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Là, il y a, une orientation, effectivement, de l'enseignement de l'histoire pro-républicain qui est manifeste par rapport à tout ça. Hein. Et donc, on a cette période de la Troisième République qui est extrêmement importante, qui va donc par une intégration, j'allais dire, de force, mais beaucoup de gens l'acceptent. Enfin, je veux pas dramatiser les choses. Il y a beaucoup d'enfants, petits-enfants d'immigrants qui cherchent à avoir la nationalité française, etc. Mais enfin, ce que je veux surtout dire, c'est que la nationalité devient un enjeu majeur. Donc désormais, vous avez une ligne de clivage qui n'existait pas avant dans la société française. C'est le clivage français-étranger, hein, qui devient une chose importante. La deuxième raison pour laquelle ça devient important, c'est que vous avez un système d'enseignement qui est mis en place, qui est l'enseignement de la Troisième République. Ce système d'enseignement, il est centralisé avec des gens qui, depuis Paris, fixent des programmes d'histoire, par exemple, ou de français, parce que les deux vont jouer un rôle très important. Moi, je pense que plus, presque autant que le contenu du message, ce qui compte, c'est la façon de diffuser le message. Vous avez des tas de pays aujourd'hui, prenons l'Allemagne par exemple, où les programmes d'histoire ou les programmes scolaires, ils sont définis régionalement par les Länder. Hein, où vous avez des tas de possibilités, dans les pays surtout qui sont construits avec donnant de l'importance aux régions, etc. C'est pas forcément mieux, hein, je ne dis pas que c'est forcément mieux, parce que vous avez un nationalisme régionaliste aujourd'hui qui est extrêmement puissant, qui est la base, hein, aussi du retour du nationalisme en Europe, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas français, en tout cas, on a un pouvoir central qui fabrique des normes, qui fabrique des représentations, qui fabrique un discours, qui va fabriquer les grands poètes légitimes, les grands écrivains, Victor Hugo, etc., etc., et évidemment un enseignement de l'histoire qui véhicule un certain nombre de valeurs, nos ancêtres les Gaulois ou autres, bon, qui vise à donner donc des éléments communs à l'ensemble des petits Français qui vont à l'école primaire. Alors là, on a effectivement un élément qui est très important, qui est de construction d'une identité par une communauté de référence, une communauté de mémoriel, si vous voulez. Bon. On a un autre élément qui est très important, c'est aussi l'intérêt économique. C'est un point très important qu'on oublie dans tous ces débats, alors qu'il est fondamental. C'est que moi, je crois que la notion d'intérêt national, ce n'est pas un fantasme. Ça existe, l'intérêt national. Je dirais, aujourd'hui, vaut mieux être payé en dollars qu'en roubles. Hein. Donc la monnaie nationale, les luttes autour de la monnaie, etc., ce sont des enjeux extrêmement importants. Et c'est à ce moment-là aussi, au début de la Troisième République, donc, qu'on voit apparaître cela. Auparavant, pourquoi la question de l'appartenance nationale n'avait pas d'importance? C'est parce qu'il n'y avait pas d'intérêt.
vous n'aviez pas de droit social. Donc le fait que, si vous voulez, les ouvriers n'avaient pas un avantage particulier à se dire français. Hein. Vous n'aviez pas de système de protection du marché du travail national. Hein. Ça n'est venu qu'après. C'est une des conséquences des premiers mouvements nationalistes de la fin du XIXe siècle, où on a mis en place des lois accordant la priorité aux nationaux sur le marché du travail. Donc tous ces mécanismes de construction d'un espace national de travail se met en place à ce moment-là. Il se met en place, on pourrait y revenir si ça vous intéresse plus particulièrement, avec deux cercles concentriques. Le premier cercle, c'est la fonction publique. Ça, c'est aussi fondamental. La fonction publique, elle est réservée aux gens qui ont la nationalité française. Donc vous avez tous des mécanismes d'exclusion qui apparaissent à la fin du XIXe siècle, qui sont où le pouvoir républicain satisfait des revendications de certaines catégories sociales. Faut pas l'oublier. Alors, la notion de fonction publique, elle va être étendue en France d'une manière extraordinaire. C'est la France, c'est le pays, encore aujourd'hui, où les discriminations fondées sur la nationalité sont les plus fortes. Vous savez, la France a été montrée du doigt récemment par l'Union européenne à Bruxelles, puisque vous avez grosso modo un tiers des emplois en France qui sont sous condition de nationalité. Hein, c'est extrêmement important. L'un des mécanismes d'extension de l'espace public, la fonction publique, ça va être de l'étendre en partie aux professions libérales. J'insiste là-dessus, c'est tout à fait important pour comprendre Vichy. Vichy s'explique par le basculement des médecins et des avocats, des professions libérales, du côté de l'extrême droite, si vous voulez, hein, pour des raisons de concurrence sur le marché du travail. Mais ces professions-là s'étaient protégées en changeant les modes d'attribution des diplômes, notamment la distinction pour les médecins entre doctorat d'université et doctorat d'État. Hein. Vous avez un anthropologue qui est mort maintenant, mais qui m'a beaucoup appris, qui s'appelait Ernest Gellner, qui lui-même avait vécu la condition de réfugié et d'immigré en France et qui avait quitté la France pour s'installer en Angleterre, et qui disait ben, le doctorat d'État dans la France du XXe siècle, c'est l'équivalent de la guillotine. Hein. C'était très intéressant. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas accéder, même si vous avez fait les études les plus formidables, etc., aux professions que vous aviez parfois exercées dans votre pays avant d'arriver, parce que vous n'avez pas le doctorat d'État français. Et encore aujourd'hui, hein, ces choses-là n'ont pas disparu. Les médecins ne sont plus obligés aujourd'hui de se mobiliser. Ils bénéficient de l'acquis de leurs devanciers, je dirais. Aujourd'hui, vous savez les discriminations qui existent dans les hôpitaux en France, je suppose. Vous avez les hôpitaux tiennent en grande partie grâce à des médecins dont beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont français, mais qui ont fait une partie de leurs études à l'étranger, à qui on n'accorde pas les équivalences, alors même qu'ils font tourner les hôpitaux et qui, comme ça, sont payés deux fois moins, etc., etc. Donc, c'est ce mode de discrimination dont on parle peu, finalement, aujourd'hui, il est extrêmement important parce qu'il est encore inscrit dans le droit. C'est pas uniquement le délit de faciès, etc., etc. C'est inscrit dans le droit, dans nos pratiques aujourd'hui, et c'est un héritage de l'histoire. Donc, on a eu... La Troisième République a construit aussi un système de protection du marché du travail qui a satisfait finalement toutes les classes sociales, on peut dire, puisque du côté du monde ouvrier, il y a eu donc la protection de l'espace, c'est-à-dire désormais, pour pouvoir travailler en France, il faut avoir une carte de séjour, il faut avoir une autorisation de travail. Hein, bon, toutes ces questions-là se sont mises en place progressivement à partir de la fin du XIXe siècle. Elles n'existaient pas avant. Auparavant, les gens entraient, venaient travailler, repartaient, etc. Il n'y avait pas de contrôle des frontières. Donc on a vraiment un changement fondamental à partir de la Troisième République. Et c'est ça qui va quelque part donner du sens à la notion d'identité nationale. Comprenez, quand on voit apparaître à ce moment-là des leaders politiques qui vont s'emparer du national comme argument politique en disant, eh bien, oui, les Français d'abord. Et Maurice Barrès, je vous prenais l'exemple de Maurice Barrès, c'est très éclairant, parce que Maurice Barrès, qui était écrivain d'extrême-gauche au départ, hein, il fait partie de ces nombreux intellectuels qui étaient à l'extrême-gauche quand ils étaient jeunes et qui sont passés à l'extrême-droite quand ils étaient vieux. Hein, La politique montre que souvent les gens vieillissent mal là-bas. Voilà. Et donc Barrès fait partie de ces, donne un bon exemple de cela. Alors il était récompensé, il a été élu à l'Académie française, hein, peu après l'affaire Dreyfus, où il a été le leader du camp antisémite, anti-Dreyfusard. Donc, et Barrès donc se présente comme député à Nancy. Ça, j'ai ça particulièrement à cœur, parce que moi-même, je suis lorrain d'origine et je suis né à Nancy. Donc, ouais, on nous présente toujours les Jeanne d'Arc, etc. Mais il y a aussi ça, hein, en Lorraine, toute cette clique de gens qui ont alimenté le nationalisme. Et Barrès, donc, est élu sur un programme qui est intitulé « Abat les étrangers ». Donc, c'est explicitement un programme nationaliste qui est mis en place à ce moment-là. Alors, le nationalisme émerge comme courant politique à ce moment-là, comme contrepoids au socialisme. On ne peut pas ignorer les deux. Vous savez, quand vous avez une structure politique, vous avez toujours deux éléments qui s'affrontent. Et effectivement, c'est au même moment où le mouvement ouvrier se développe. Hein, vous avez la grande industrie qui apparaît, les mineurs, Germinal, Zola, etc., etc. Hein, des grèves. C'est la plus grande époque du mouvement ouvrier français. Les grèves sont plus puissantes qu'en 36, qu'en 47, 48. C'est vraiment la grande époque où il y a un espoir de révolution, hein, un espoir de grève générale. C'est vraiment le mouvement aussi d'un mouvement ouvrier autonome, si vous voulez. C'est le syndicalisme révolutionnaire. C'est pas le marxisme-léninisme d'après la Première Guerre mondiale, hein. C'est un mouvement très puissant, très enraciné dans les terroir, on pourrait dire, en liaison aussi avec la paysannerie, l'artisanat, etc., etc. Et il y a une angoisse très forte chez les possédants, hein, de voir survenir cette révolution. Et c'est le début du Parti socialiste, hein, le parti de Jules Guesde, le premier parti marxiste en France, commence à gagner des voix. Il a des députés, il a des mairies, notamment à Roubaix, hein, le nord de la France, etc. Et donc on voit très bien que le nationalisme est pensé comme une alternative au socialisme. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de capter une partie des voix populaires. Encore aujourd'hui, c'est ça. Aux dernières élections, vous savez, peut-être que présidentielles, les deux tiers des ouvriers ont voté à droite. Hein ? Les deux tiers des ouvriers. Bon. Donc, on voit très bien la logique qui est à l'œuvre. Pour toucher le monde ouvrier, vous allez avoir, à partir de ce moment-là, deux discours antagonistes. Le premier met l'accent sur le social, en essayant donc de capter, de mobiliser les électeurs sur la base de leur appartenance sociale. C'est la classe ouvrière, le prolétariat, etc. Et le camp adverse essaye de toucher le même électorat, puisque c'est l'électorat qui fait les élections. Vous ne pouvez pas gagner les élections dans une démocratie si vous n'avez pas la majorité des voix. Essaye donc de capter ces mêmes électeurs en mobilisant leur identité nationale. Donc c'est la grande structure qui se met en place dans le champ politique français, oppose le social au national. Et je pense que cette bipolarisation de la vie politique française, que j'appelle l'opposition entre le pôle national sécuritaire d'un côté et le pôle social humanitaire de l'autre, qui se met en place au moment de l'affaire Dreyfus, c'est un des grands acquis de l'affaire Dreyfus. La gauche est capable de se rassembler en combinant la dimension sociale et la dimension humanitaire. La dimension humanitaire a toujours été portée en France plutôt par la classe moyenne, les enseignants, et donc dans les périodes, la gauche a à chaque fois dans l'histoire politique française a réussi à devenir hégémonique, à gagner les élections, que ce soit au moment de l'affaire Dreyfus, sous le Front populaire ou avec Mitterrand en 81, chaque fois où les deux composantes du social et de l'humanitaire ont réussi à s'allier. Le Front antifasciste, par exemple, à partir de 34. Et chaque fois que ces deux composantes ont éclaté ou se sont opposés, c'est la droite, l'hégémonie a été du côté de la droite. Je pense que c'est un argument peut-être qu'on peut rappeler quand on s'adresse aujourd'hui à la gauche gouvernementale, comme on pourrait dire, au Parti socialiste, etc., en dépit de la difficulté, j'en parlerai tout à l'heure, que peut représenter aujourd'hui de maintenir le cap sur un militantisme ouvert aux sans-papiers, etc. Je crois que c'est l'intérêt de la gauche. Ce n'est pas jamais été son intérêt de se positionner sur l'argumentation de l'adversaire, parce que la politique, c'est ça, c'est un rapport de force, vous avez des camps, vous avez des traditions et des affrontements qui se reproduisent comme ça d'époque en époque. Donc, dire un mot par rapport à cette question d'identité nationale. Si l'on regarde la structure du champ politique français, si vous voulez, au moment de l'affaire Dreyfus, eh bien, on s'aperçoit que c'est presque la même chose qu'aujourd'hui. C'est évidemment nommé autrement, etc. Mais les positions sont en gros les mêmes. Vous avez des partis qui s'affrontent pour gagner les élections. J'allais dire, bon, à l'époque, c'est la SFIO. Hein, à gauche, c'est la SFIO, Jean Jaurès, si vous voulez. Et puis, à droite, vous avez la droite républicaine, Poincaré, Clémenceau, etc., etc. Donc, ces deux composantes qui jouent un rôle fondamental, puisque c'est elles, ces groupes-là qui gagnent ou qui perdent des élections, tiennent un grand compte de l'identité nationale. Hein, ce ne sont pas des partis qui négligent cette dimension-là. On constate aussi que c'est toujours la droite qui est à l'offensive, comme pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Hein, elle met en priorité l'intérêt national par rapport aux intérêts sociaux. La gauche met en premier lieu le social, mais est constamment obligée de répondre à la question nationale. Et ça, c'est typique. On le trouve déjà dans le discours de Jaurès. Jaurès tente d'élaborer une réponse de gauche à la question nationale. Hein? Alors à l'époque, c'est beaucoup par rapport à l'armée, hein, parce que c'est le problème de la guerre mondiale, etc., etc., de la première guerre qui approche. Donc, en revanche, les groupes qui n'aspirent pas à prendre le pouvoir, par exemple l'extrême-gauche, à l'époque, c'est le syndicalisme révolutionnaire, les gens qui sont anarchistes ou qui sont aussi dans les groupes marxistes très, très radicaux, eh bien, eux dénoncent le national. Hein. Ils considèrent que tout ce qui est national, c'est conservateur, qu'il faut le rejeter au profit de l'international. C'est la thématique de prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc on a, si vous prenez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, le débat politique qui a eu lieu en 2007, quand Sarkozy a annoncé la mise en place de son ministère d'identité nationale, on retrouve à peu près hein, ces types de positions, avec la droite à l'offensive, puisque c'est Sarkozy et Le Pen qui étaient en pointe sur la question de l'identité nationale. La gauche, Ségolène Royal, essayant d'apporter une réponse de gauche en disant qu'il faut accrocher les petits drapeaux aux fenêtres, etc. Et puis la gauche de la gauche qui dénonce ça en disant c'est de la poudre aux yeux, c'est du baratin, c'est pour cacher les vrais problèmes, etc. Donc ce schéma politique, on peut dire, moi je trouve qu'en un siècle, il n'a pratiquement pas beaucoup changé. Donc, qu'est-ce que c'est alors que la différence qu'on peut pointer entre les deux, très schématiquement? Eh bien, le discours de droite sur l'identité nationale, pour moi, c'est un discours nationaliste. Et là non plus, il n'y a pas de différence fondamentale, de structure, hein, entre le discours de Barrès à fin 19e siècle et le discours aujourd'hui de Sarkozy ou de Le Pen. Là-dessus, il n'y a pas de différence. La structure du discours nationaliste, c'est de dire... Il faut défendre l'identité de la nation parce qu'elle est menacée par l'étranger. Et c'est là que s'instaure un rapport avec l'immigration. La base du discours, c'est celle-là. C'est l'idée d'une menace. C'est pour ça que le national est combiné avec le sécuritaire. Et la menace est représentée par l'étranger. Maintenant, comment désigne-t-on l'étranger? Alors là, il y a des changements selon les périodes. À l'époque de Barrès... Où on a déjà une très forte immigration. On parlait tout à l'heure d'Aigues Mortes, des massacres d'Italiens, etc. C'est effectivement déjà une période de discours anti-immigrés très, très virulente. Mais en même temps, il y a une autre dimension, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme se constitue d'ailleurs au même moment. Le discours antisémite moderne, élaboré par un journaliste qui va se faire passer pour un théoricien qui s'appelait Édouard Drumont, qui a écrit un pavé de 1200 pages
rempli d'un tissu d'horreur, etc., mais qui sera quand même chroniqué par Le Figaro, par Le Temps, qui était l'équivalent du Monde, etc., bon, passons, qui donne les bases de l'antisémitisme moderne. L'antisémitisme, c'est de dire, donc, eh bien, l'identité française est menacée par les juifs allemands, parce que le juif est toujours allemand dans ce discours de l'époque, parce qu'il faut raccrocher l'antisémitisme à la xénophobie. Et comme il y a une haine des Allemands à cause de la guerre de 1870, il y a donc la thématique du juif allemand qui se met en place à ce moment-là. Et on la retrouve d'ailleurs explicitement chez Barrès. Hein. Barrès dit que le juif ne peut pas s'intégrer. D'ailleurs, l'histoire montre qu'ils ne se sont jamais intégrés, etc., etc., parce que le judaïsme est contraire au christianisme. Hein. Et on a là donc une définition de l'identité nationale, donc que j'appelle nationaliste, qui utilise la religion. Et là, Barrès dit l'identité française, c'est une identité catholique. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire, on va dire l'identité française, c'est une identité laïque, alors qu'à l'époque, la laïcité, elle était plutôt du côté de la gauche. Mais la religion est toujours présente, puisque, vous verrez dans le chapitre que j'ai consacré à l'analyse discours Sarkozy, de Sarkozy, l'étranger qui menace l'identité nationale, aujourd'hui, c'est le musulman. Hein, et tout le discours que, une bonne partie du discours qui était énoncé à propos des juifs auparavant, il a été recyclé, en fait, par rapport à l'islam aujourd'hui. L'incompatibilité des civilisations, etc., etc., etc. Donc on a là une matrice très forte qui, à mon avis, se reproduit d'époque en époque et qui fonde notre rejet de l'identité nationale. Mais il y a des gens aussi qui peuvent utiliser l'expression « identité nationale » dans un autre sens. Alors, quel a été le sens que la gauche a essayé de donner là, à ce niveau-là? Je dis bien « essayer » parce que la gauche est toujours en position de faiblesse là-dessus, toujours. Hein, elle sent que les militants de gauche sentent que ça a un impact dans l'opinion, parce que c'est vrai que ça a un impact, on en parlera peut-être tout à l'heure, les raisons pour lesquelles ça a un impact. Pourquoi les gens, quand on leur dit « faut être fier d'être français », ils disent « oui, c'est vrai, il faut être fier d'être français », etc. Il y a donc un impact, il y a donc une importance électorale. La gauche essaye donc de contrer la droite sur ce terrain-là. Et le discours qui est énoncé, c'est donc celui de dire « eh bien oui, on peut être fier d'être français, mais fier d'être français, ça veut dire être fier des droits de l'homme, être fier des valeurs positives de la Révolution, etc. » Et c'est le thème qu'on trouve déjà chez Jaurès, qui est « la France, patrie de l'universel ». Donc, c'est une définition de l'identité nationale qui est calée, je dirais, sur le patriotisme. Défendre la France, c'est défendre des valeurs universelles. Bon, j'entre pas dans la critique, hein, j'essaye de poser les choses. Donc, on a là donc une structure qui, à mon avis, continue à s'exercer aujourd'hui et qui est encore présente dans le débat politique. Simplement, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette période donc, sur laquelle j'ai insisté? Eh bien, je crois qu'il y a eu des bouleversements fondamentaux qui se sont produits en France à partir des années 1980. Je pense que les années 1980 ont été aussi importantes, peut-être les historiens du futur le confirmeront, aussi importantes que les années 1880. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je crois que il y a eu l'effondrement du mouvement ouvrier. Je crois que c'est un... Alors, c'est vrai, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire ouvrière, etc. Alors, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les gens de la sidérurgie, donc j'ai un attachement personnel, donc qui peut-être me rend moins lucide sur ces questions-là, je ne sais pas, mais j'ai quand même le sentiment que la grande époque dans l'histoire du mouvement ouvrier français qui avait commencé justement à la fin du 19e siècle, eh bien, elle s'est effondrée dans les années 80, hein, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'écroulement des bastions de la grande industrie, l'écroulement de cette classe ouvrière qui avait tenu quand même le haut du pavé, on peut dire, dans le mouvement social depuis un siècle, à laquelle on devait toutes ces grandes luttes de 36, etc., etc. Eh bien, voilà, la crise, la liquidation des bastions du mouvement ouvrier, la recomposition du capitalisme, que vous savez que les experts du système ont pensé aussi la recomposition des formes de production avec l'écroulement des collectifs ouvriers, la segmentation du travail, enfin bon, toute une série de choses, pas à peine que j'insiste, la consommation avec les crédits, etc., où les gens sont de plus en plus attachés de mille et une manières à la consommation et ne peuvent plus non plus résister comme ils pouvaient le faire auparavant, etc. Bref, on a un affaiblissement considérable du mouvement ouvrier qui s'est accompagné de mutations aussi à d'autres niveaux, notamment les mutations au niveau de l'information et le triomphe de la société spectacle, et de l'information spectacle, pardon. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi rapidement dans ce livre, c'est-à-dire la victoire de Mitterrand a entraîné la libéralisation, vous savez, des ondes, etc., avec des côtés positifs, avec les radios libres, etc., mais aussi avec des côtés négatifs, c'est-à-dire que, par exemple, les chaînes télévision, les radios, etc., sont passées du pouvoir d'État au pouvoir du marché. Et donc, vous avez maintenant des mutations où il faut faire le spectacle constamment à la télévision, le soir à 20h, pour attirer des gens. Et bien le spectacle, il est fait avec de la violence, en mettant en scène de la violence. Et donc cette nouvelle donne s'est conjuguée avec la conjoncture internationale du Moyen-Orient, au début avec donc la révolution iranienne, etc., le terrorisme, etc. Et constamment, donc, on a fabriqué un discours où désormais, le méchant de service, c'est le musulman, etc., etc. Donc, il y a eu ce discours qui s'est développé, s'est imposé à tel point que vous avez un mot nouveau qui, ça m'a frappé de voir sa fréquence dans le discours politique de 2007. Ce mot, c'est communautarisme. Donc, désormais, tout le monde doit être contre le communautarisme. Ça devient une nouvelle norme. Mais j'ai regardé dans les discours à la fois de Ségolène Royal et de Sarkozy, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne le définissent même pas, ni l'un ni l'autre. Parce que c'est entré dans le sens commun. C'est quelque chose que tout le monde pense connaître, pense définir. Et la politique est faite de ça. Elle est faite de stéréotypes, de mots comme ça, qui sont apparus un jour et qui se sont imposés. Et pour communautarisme, c'est frappant, parce que j'ai fait une petite enquête à partir du site électronique du journal Le Monde, en tapant sur le mot communautarisme, on s'aperçoit que même le journal Le Monde, qui est considéré un peu comme une référence sur tout ça, n'utilisait jamais ce mot communautarisme pratiquement avant 1989. C'est un mot qui était pratiquement inconnu, hein. On parlait de communauté, etc., etc., mais communautarisme, quand vous mettez un « isme », c'est que vous introduisez une dimension politique. Hein, vous voyez bien, communautarisme, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura un risque que des communautés deviennent des acteurs politiques suffisamment puissants pour mettre en péril l'État français. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Eh bien, alors on voit très bien comment ça apparaît. C'est par rapport à l'affaire du voile islamique, par rapport à la tentative de Rocard, Michel Rocard étant Premier ministre, régler le problème en créant le Haut Conseil à l'intégration. Enfin bon, tous ces épisodes-là, liés au débat international sur le terrorisme islamiste, etc., etc., ont imposé ce mot à tel point qu'il est dans la tête de tout le monde sans avoir besoin d'être jamais défini. Et donc ça devient une ressource politique que les acteurs du champ politique doivent mobiliser, parce que la politique s'est fait... c'est pas la faute des hommes politiques, ça fonctionne comme ça, beaucoup avec l'usage de stéréotypes, il faut utiliser des stéréotypes. Mais comme ce mot fait consensus, quasiment, en tout cas dans les partis de gouvernement, eh bien la lutte consiste désormais à opposer des sens différents du terme communautarisme. Et là, des enjeux de la campagne 2007, ça a été une compétition entre Ségolène Royal et Sarkozy pour dénoncer le communautarisme de l'autre, en fait. Hein. Bon. Donc on voit comment la question de l'identité nationale se recompose à partir de cela, puisque ce qui est frappant dans le discours de Nicolas Sarkozy, c'est moi je dis que c'est un discours nationaliste, puisque vous pouvez démontrer par A plus B, en regardant les textes, que l'identité nationale est définie dans le discours de Sarkozy par rapport à la menace représentée par les étrangers. Hein, et moi, je définis le nationalisme comme ça, un discours qui prône la défense de l'identité nationale
par rapport à une menace représentée par l'étranger. Mais ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que dans le discours de Sarkozy, l'étranger n'est pas nommé. Il n'est jamais nommé. C'est là une des différences avec Le Pen. Chez Le Pen, vous avez explicitement nommé l'immigré, l'arabe, le musulman, etc., etc. Bon, les beurs, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a des mots qui servent, dans le discours de Le Pen, à nommer l'étranger, entre guillemets, qui menace l'identité. Dans le discours de Sarkozy, ça fonctionne par allusion. Sauf à certains moments, par exemple, dans la prestation, peut-être en tête, à TF1, où il dénonçait les moutons égorgés dans les baignoires, par exemple, etc. Bon. Mais le principe d'argumentation chez Sarkozy, c'est de fonctionner par allusion. Par allusion. Et le mot communautarisme, si vous voulez, sert, puisque implicitement, ça va évoquer tout de suite des images dans la tête des gens, parce qu'ils regardent tous la télévision le soir, mais il n'est pas explicitement nommé. Ce qui fait que, même pour nous, qui essayons d'apporter une critique par rapport à ça, on est toujours suspecté de faire des procès d'intention. Voyez, par rapport au passé, quand Barrès ou d'autres, Maurras, défendaient leur discours nationaliste, ils appelaient un chat un chat. Donc, la gauche, les progressistes, les militants antifascistes, eh bien, ils pouvaient opposer un discours à un autre. Tandis que nous, on vous dit toujours, mais vous faites un procès d'intention. Il n'a pas dit ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas dit ça. Mais voilà, là, à mon avis, le cœur du système dans lequel on est. Quand vous êtes dans un système où vous avez la télévision, les médias qui martèlent 24 heures sur 24 les mêmes images, il n'y a même plus besoin de mots, il suffit d'avoir des images, eh bien, si vous utilisez des termes qui vont évoquer ces images, vous savez, comme le Pavlov, le chien de Pavlov, bon, c'est-à-dire que où il suffit d'agiter un chiffon rouge pour que le taureau fonce, eh bien, quand vous êtes dans un système politique qui fonctionne de cette manière-là, vous pouvez très bien véhiculer des discours nationalistes classiques, finalement, sans avoir le même vocabulaire. Et je pense que nous sommes donc entrés aujourd'hui dans un nouvel âge du nationalisme qui fonctionne. Et ce n'est pas qu'en France, hein, vous savez, malheureusement, regardez en Italie, aux Pays-Bas, un peu partout, on a cette logique qui se développe. Et c'est un nationalisme qui est compatible avec les institutions démocratiques. Et c'est ça qui change, je pense, en bonne partie la donne, parce que dans les années 30, eh bien, le nationalisme menaçait les institutions, les nationalistes voulaient renverser la République, renverser la démocratie pour imposer des régimes autoritaires, etc., etc. Aujourd'hui, en tout cas, explicitement, quand vous lisez les programmes, vous regardez le programme du Front National, même le Front National dit qu'il ne veut pas toucher aux institutions. Il n'est pas contre la démocratie, etc. Donc, du coup, quand le Front National s'est développé dans les années 80, tous ceux qui voyaient ça avec horreur se sont mobilisés en dénonçant les risques pour les atteintes aux institutions, en disant « le système démocratique va s'effondrer ». Mais ça ne s'est pas produit, il faut être lucide. 20 ans après... Donc, qu'est-ce que ça suscite dans l'opinion ? Ils disent, bon, ben, finalement, c'est pas si dramatique que ça, puisqu'on continue à vivre, on a toujours la liberté d'expression, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une sorte de banalisation de ce type de discours, parce qu'il est intégré maintenant dans des logiques politiques qui ne sont pas contradictoires sur le plan des principes. Après, si on regarde de près, on s'aperçoit que la démocratie, elle prend du plomb dans l'aile. Mais en tout cas que globalement, les principes de la démocratie ne sont pas atteints. Du coup, la majorité des Français, disons, dans leur vie quotidienne, ne souffrent pas des atteintes directes de ce nationalisme. Ils sont pas, leur liberté d'expression n'est pas mise en cause. Ils peuvent aller sur Internet, faire un site, un blog, etc., et puis dire tout le mal qu'ils pensent de Sarkozy. Au contraire, ça fait partie aujourd'hui du jeu. Mais désormais... dans nos systèmes politiques, je pense que les atteintes se focalisent ou se concentrent sur des groupes bien précis. C'est-à-dire qu'on a un ciblage de ce discours nationaliste sur des groupes qui sont de fait exclus quasiment de la solidarité nationale, hein, qui sont les maillons faibles de la société démocratique. Ça a toujours été le cas pour l'immigration, hein, également, enfin, c'est un problème fondamental par rapport à la colonisation, etc. Et aujourd'hui, donc, on a un discours qui cible, d'ailleurs, les affiches que vous avez mises là, le prouve parfaitement. Moi, j'ai ça aussi à cœur. Par ailleurs, je suis président d'une association d'aide aux intellectuels réfugiés, donc j'ai pu mesurer de près les atteintes aux droits d'asile constantes qui sont pratiquées aujourd'hui et la difficulté qui a mobilisé aujourd'hui les gens autour de ça. Une des grandes causes, quand même, des intellectuels français depuis la Révolution française, c'était le droit d'asile. Je dirais que d'ailleurs que les gens soient de gauche ou pas de gauche, vous aviez, regardez, Victor Hugo, Michelet, Anatole France, etc., tous la dynamique des droits de l'homme passait en bonne partie par la défense du droit d'asile. Et aujourd'hui, on n'arrivait plus à mobiliser personne autour si, heureusement, il y a encore des gens, mais je veux dire, ça n'a plus la même légitimité, en tout cas, que ça avait avant. Et ça, c'est tout un travail donc qui a abouti à l'acceptation de cette logique de l'identité nationale. Et finalement, je pense que la mise en place de ce ministère a concrétisé tout ce processus donc qui s'est développé depuis une vingtaine d'années. Et on peut l'expliquer, la mise en place de ce ministère, parce que Sarkozy, je pense, a compris qu'il gagnerait l'élection présidentielle en récupérant des voix du Front national, et que pour le faire, il fallait aller du côté de la stigmatisation de l'immigration, parce que c'est ça le fond de commerce du Front national, mais qu'il ne pouvait pas simplement reprendre le discours classique sur l'identité nationale, parce que ce discours, on l'avait déjà eu droit dans les années 80, je ne sais pas si vous vous appelez. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus en réponse à ce premier discours sur l'identité nationale. Donc, il a ajouté un ingrédient supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le savoir-faire d'un homme politique, ça compte. Vous avez des bons professionnels et des mauvais professionnels en politique. Hein, les bons professionnels, c'est peut-être les plus dangereux, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et donc, Nicolas Sarkozy savait très bien que pour capter l'intérêt des médias, il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'on dit parfois, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tous les médias se mettent aussitôt à chanter les louanges. Il faut qu'ils y trouvent leur intérêt quelque part. Donc, il fallait un scoop. Ce scoop, ça a été le ministère. Bon, j'ai analysé l'émission télé dans laquelle il annonce la création de son ministère, etc. Parce que ça, c'était vraiment nouveau. Et là, il y a, de notre part, et je dirais, c'est un défaut des universitaires, on a eu tendance aussi à trop s'enfermer dans notre univers. Et c'est la même chose, je crois, du côté des artistes. Parce que nous, on ne sait pas inventer des langages qui permettent justement de transposer les connaissances qu'on produit de façon à ce qu'ils puissent toucher les gens, faire toucher leurs émotions, etc. Finalement, c'est ça que nous apporte l'art, que nous apporte la littérature, etc., etc. Donc je travaille en ce moment sur des projets de ce type avec des gens du théâtre, du spectacle vivant, pour essayer de retrouver ce qui a été aussi quand même la grande époque. Quand on regarde la grande époque, évidemment, ça correspond à l'époque où les gens de ma génération étaient jeunes, etc. Donc il y a la tendance de la nostalgie à croire toujours que c'était formidable, c'était mieux avant, etc. Bon, je ne ferai pas comme Régis Debray, j'essaierai d'éviter ce couplet. Mais malgré tout, si vous voulez, on s'aperçoit que les moments où les forces progressistes arrivent à avoir une hégémonie, c'est quand convergent les éléments. C'est quand, à la fois, vous avez les militants, les chercheurs, les artistes, qui convergent vers un idéal commun, vers un espoir commun de transformation sociale, et que les causes elles-mêmes convergent. Or, aujourd'hui, on est dans une époque où tout a éclaté et où les gens sont en conflit les uns avec les autres. Si vous prenez cette affaire du voile islamique, qu'est-ce que vous regardez? Vous voyez très bien que la stratégie de la droite par rapport à cette affaire, ça a été de mettre en concurrence les bonnes causes, d'opposer l'antiracisme au féminisme. Et toute la stratégie, la nouvelle stratégie, je pense, de la droite aujourd'hui, c'est ça, c'est de casser des formes de lutte qui auparavant convergeaient. Comment retrouver le moyen de faire converger les choses? C'est ça l'une des grandes questions qui se posent. Mais elle ne se pose pas simplement au point de vue politique global. Comment mettre la gauche de la gauche avec la droite de la gauche, etc., etc. Elle se pose aussi par rapport à notre propre pratique de citoyen dans là où on est. Hein, et ça, ça passe, je crois, aussi par des interrogations qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que c'est peut-être aussi mettre le doigt sur un certain nombre d'erreurs ou de lacunes qui ont été dans nos propres pratiques. Voilà un petit peu les réflexions que vous voyez que m'évoque ce débat sur l'identité nationale. Je vous remercie.